Pour présenter un peu la séance d'aujourd'hui, donc vous avez publié Julie Pagis et Wilfried Ligné en 2017 l'enfance de l'ordre, comment les enfants perçoivent le monde social, dans lequel vous analysez comment les enfants effectuent un recyclage symbolique des injonctions éducatives et comment ils les adaptent au contexte auquel ils font face.
Alors pour contextualiser un peu, la sociologie de l'enfance c'est un champ relativement récent de la sociologie. Elle s'est appuyée sur les travaux de Jean Piaget en psychologie du développement au cours du XXe siècle. Et en 2006, entre autres, Régine Sirota a publié « Éléments pour une sociologie de l'enfance ». Et ce livre marque la constitution du champ sociologique de l'enfance. Et très récemment, on a aussi un repère, La Découverte, qui a été publié par Marc Moncourt, donc intitulé « Sociologie de l'enfance » en 2017.
Nous avons choisi notamment de demander à Bernard Zarka d'être ici aujourd'hui parce que vous vous positionnez explicitement dans vos travaux par rapport à lui et par rapport à ce qu'il appelle le sens social des enfants. Et donc j'imagine que vous serez amené peut-être à discuter pendant cette séance de ce positionnement.
Alors, pour présenter rapidement les intervenants, Julie Pagis, vous êtes chercheuse en sociologie politique au CNRS. Et vos recherches s'inscrivent dans deux principaux domaines, donc les trajectoires militantes et les sciences sociales de l'enfance. Et alors, à propos des trajectoires militantes, vous avez fait votre thèse sur les 68 arts, publié en 2014. Et vous avez ensuite réalisé une enquête avec Wilfried Ligné sur les perceptions que les enfants ont de l'ordre social, avec comme résultat cet ouvrage. En 2017, vous avez également réalisé une enquête spécifiquement sur un thème que vous abordiez déjà, donc les rapports enfantins aux politiques, ce qui peut être lié avec l'enfance de l'ordre. Et une bande dessinée dans la collection Sociorama a été publiée en 2017 sur cette enquête présidentielle.
Wilfried Ligné, vous êtes donc chercheur au CNRS et spécialisé sur deux sujets principaux. La sociologie de l'enfance et la médicalisation comme appropriation des savoirs cliniques en société. Vous avez réalisé votre thèse sur l'identification psychologique des enfants dits surdoués en 2010 et vous avez également travaillé sur les stratégies de reproduction lorsqu'il y a séparation des parents.
Et depuis 2015, vous travaillez d'une part sur les conditions d'émergence de la psychologie clinique avec une enquête menée au Kenya et d'autre part sur l'appropriation du monde matériel par les enfants en crèche.
Et du côté des discutants, Bernard Zarka, vous êtes sociologue et directeur de recherche honoraire au CNRS. Vos travaux ont porté sur l'artisanat, la construction identitaire des groupes professionnels et sur l'enfance et la transmission familiale. Vous avez publié en 1999 « Le sens social des enfants » qui va servir de point de départ à Julie Pagis et Wilfried Ligné dans leur enquête sur l'enfance. Et dans le cadre de vos recherches sur la construction identitaire des groupes professionnels, vous avez également travaillé sur l'éthos des mathématiciens.
Clémence Perronnet, vous êtes doctorante au centre Max Weber et membre du laboratoire IREDU. Et vous réalisez votre thèse sur la culture scientifique des enfants en milieu populaire sous la direction de Christine Détron. Et plus globalement, vous travaillez sur la socialisation à la culture scientifique avec une perspective de genre.
Donc, maintenant, nous pouvons laisser la parole à Julie Pagis et Wilfried Ligné pour qu'ils nous présentent leurs travaux en une quarantaine de minutes environ.
Merci beaucoup de cette invitation. On est très content de venir ici. En plus, la salle est vraiment pleine. On est content. C'est quand même rare. En fait, on tourne beaucoup. Là, pour tout vous dire, on tourne quand même beaucoup pour présenter le livre, mais on a souvent des petits groupes de gens. Et là, on est content de voir une salle. Enfin, c'est dingue. Ça fait plaisir. Et on est content de pouvoir présenter ce livre qu'on a publié en avril dernier. Je vais peut-être commencer donc directement, comme on a un temps qui est limité, par entrer dans le vif du sujet tout de suite, en parlant de la genèse de l'enquête assez rapidement. C'est quelque chose qui n'est pas dans le livre, donc s'il y en a certains entre vous qui l'ont lu, au moins ça ne sera pas répétitif avec ce qu'ils ont pu lire. Donc très rapidement, l'enquête dont on va vous parler aujourd'hui, elle a été initiée par Julie Pagis en 2010, année où elle était recrutée au CNRS, sur un projet qui portait sur la socialisation politique des enfants. Comme nos introductrices l'ont dit tout à l'heure, Julie avant avait fait une thèse sur les 68 arts. Et en fait, cette thèse donc sur mai 68 incluait des questions de socialisation politique. Alors, des questions de socialisation politique qui portaient sur les adultes ayant participé à mai 68, mais plus spécifiquement, en fait, des questions sur les conséquences de mai 68 sur les enfants de ces gens, notamment en termes de socialisation politique. Qu'est-ce que ça avait fait aux enfants des 68ards d'avoir des parents qui avaient participé à mai 68? Alors, ce qui était la manière de travailler, c'est impliquer, comme ces gens, ces enfants de 68ards, au moment de l'enquête, ils avaient une trentaine d'années, si je ne me trompe pas, elle impliquait de leur poser des questions sur comment ça se passait quand ils étaient enfants. Est-ce qu'on leur parlait de politique à la maison? Est-ce qu'ils appelaient leurs parents par leur prénom? Ce genre de choses. Donc la démarche qu'elle avait était une démarche d'étude d'association politique, mais qui était une démarche rétrospective. Or, ce projet qu'elle faisait, ce nouveau projet qu'elle avait, c'était de faire de l'association politique en train de se faire. De prendre des enfants, donc des enfants qui sont encore enfants au moment où on leur pose des questions sur l'association politique, au moment où on les observe. Et voilà. Et c'est pour cette raison-là qu'elle a donc négocié deux terrains, en fait, deux terrains parisiens, dans lesquels elle comptait, en fait, enquêter auprès d'enfants. C'est à ce moment-là, en fait, qu'elle me contacte, moi, on se connaissait un petit peu avant, mais sur le mode, finalement, je n'ai jamais travaillé sur les enfants, en fait, directement. Peut-être que je pourrais travailler avec quelqu'un qui l'a déjà fait, ce qui était mon cas, parce que moi, j'ai fait donc cette thèse sur les enfants intellectuellement précoces ou surdoués, qui incluait les questions de socialisation, par rapport auxquelles, en fait, je m'étais assez déplacé, parce que j'ai beaucoup travaillé, finalement, sur l'identification des enfants et son rôle dans les stratégies de reproduction, pour aller vite. Mais en même temps, j'avais fait de l'ethnographie concrètement avec des enfants, et donc j'avais l'habitude de travailler effectivement avec des enfants. Et donc on est parti sur un binôme comme ça. Moi, son projet m'a tout de suite intéressé, avec cette petite spécificité qui était liée aussi à ma formation disciplinaire, qui était... On rigole parce que derrière ces discussions, il y a des arrangements qui sont des fois qui ont été marrants à faire. Hein. Bon, bref. Donc, c'est mon côté sociologue, on pourrait être plus politiste que moi, si vous voulez, bon, moi qui ne le suis pas du tout, donc c'est facile d'être plus politiste que moi, mais au départ, moi, j'avoue que la socialisation politique, ça ne me parlait pas complètement, je me disais, mais la politique, c'est une pratique culturelle parmi d'autres, bon, un peu plus quand même, mais bon, à peine, quoi, donc c'est pas ce que je pense maintenant, mais c'est ce que je me disais à l'époque, et du coup, l'idée, c'était de dire, bah, moi, je veux bien qu'on travaille ensemble, mais on réinsère ça dans une question plus générale sur la question des hiérarchies, y compris des hiérarchies politiques. Et en fait, Julie était complètement d'accord avec ça, puisque les politistes, mais pas complètement non plus. Voilà. Donc l'idée, c'était de dire, bah, essayons de travailler entre autres sur cette réalité vraiment politico-politique, le champ politique, pour aller vite, mais dans un cadre plus général dans lequel on s'intéresse aux perceptions enfantines, donc de l'ordre social. Alors, c'est des termes qui ont été stabilisés plutôt à la fin. Pour longtemps, déjà, on se disait nous-mêmes ordre sociopolitique, bon, et puis finalement, on a dit ordre social par rapport à la place qu'a pris la politique, effectivement, dans le travail final. Qu'est-ce que rajouter encore donc sur cette genèse de cette enquête? Donc à partir de là, donc on va sur le terrain ensemble, c'est-à-dire on a fait toute l'enquête ensemble, évidemment toute l'écriture, etc. Et donc ça durait depuis 2010 par contre. J'ai dit 2011. 2010 jusqu'à la rédaction de ce livre, 2017. Et ça a été accompagné, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce que c'est un point important, par un séminaire de sciences sociales de l'enfance qu'on a tenu avec des étudiants qui est dans sa cinquième année maintenant, et qui était aussi une manière de faire vivre le côté sciences sociales, pluridisciplinaire, voire au-delà des sciences sociales, en fait, et qui nous permettait aussi de nourrir constamment, au-delà du matériau empirique, nos réflexions, de lectures nouvelles, etc. Donc on s'est engagé dans un travail, donc une enquête commune, donc sur cette base, intégrer la question de la socialisation politique dans son cadre qui nous semblait naturel, c'est-à-dire la construction d'un rapport à l'ordre social relativement général. Et en même temps, on voulait donc maintenir l'objet politique quand même. Ça a donné au final le livre dans la structure telle qu'il est, pour vous le dire clairement dès le départ. Donc il y a une introduction, après il y a un premier chapitre qui est un chapitre qui lit des questions de relations d'enquête et de présentation en fait, des enfants, sans être complètement un chapitre méthodologique, voilà, qu'un chapitre en gros autour de la question de enfin, savoir d'abord qui sont les enfants avant de dire ce qu'ils sont amenés à percevoir. Voilà. Et puis après, trois études de cas, au fond. Une première étude de cas sur les perceptions enfantines des métiers, et au-delà de ça, les perceptions enfantines des classes sociales. Ensuite, une étude de cas sur les perceptions enfantines des camarades, et notamment leurs inimitiés, donc plutôt dans ce sens-là, plutôt leurs inimitiés que leurs amitiés, on y reviendra peut-être. Donc les hiérarchies sociales au fond plus proches, on pourrait dire, c'est un peu ça notre idée, c'était de varier des choses proches et des choses plus lointaines. Et puis au plus loin les enfants, le dernier chapitre sur l'association politique, hein, qui avait été notre point de départ mais qui est plutôt notre point final dans le livre, c'est-à-dire les perceptions enfantines des partis politiques, des hommes politiques, des orientations politiques, ce genre de choses. Donc ça c'est pour le projet général, en fait, décrit plutôt de manière thématique que problématique. Pour l'aspect problématique, Julie vous présentera un peu comment on a problématisé ça plus précisément. Un mot maintenant sur les questions méthodologiques. Donc, pour recueillir du matériau relatif au point de vue des enfants sur l'ordre social, voilà comment on a procédé. Donc, d'abord le terrain. On a mené en binôme une enquête durant 2 années consécutives, de la rentrée 2010 à la fin de l'année scolaire 2012, au sein de 2 écoles élémentaires parisiennes d'un même quartier qu'on a choisi de manière à observer des contrastes sociaux. Donc ça veut dire que, pour nous, ce n'était pas une question d'exhaustivité, hein, le choix de ces terrains, c'était justement avoir des contrastes sociaux, c'est-à-dire être capable d'observer des variations entre des conditions d'existence enfantine bien différenciées. Et ça, notre enquête le permet amplement. En gros, pour aller vite, il manque certains groupes sociaux dans notre enquête. Je le dis très vite. Il faut le contrôler. Donc très vite, c'est on n'a pas de classe supérieure économique, voire de classe moyenne économique, parce qu'elles ne vivent pas dans les quartiers mixtes parisiens. Elles vivent dans les quartiers plutôt non mixtes. Et on n'a pas de classe populaire très précarisée. On a des classes populaires un peu stables, c'est-à-dire au moins un parent travail, par exemple, parce que les classes populaires plus précarisées ne vivent pas dans Paris. D'accord ? Donc voilà ce qui manque en termes de si on prend un truc qui serait dans une logique représentative. Mais nous, on n'a pas travaillé comme ça. On voulait simplement avoir des écarts sociaux. Et là, la mixité est suffisante, en fait. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc qu'est-ce qu'on a fait sur ces terrains ? Donc, on a suivi en particulier les élèves de 2 classes dans chaque école. Donc, soit 4 classes en tout. Des CP et des CM1, la première année, qu'on suit l'année suivante, qui deviennent des CE1 et des CM2. D'accord ? Donc, 2010-2011, des CP qui deviennent des CE1. Et pareil pour les CM1 qui deviennent des CM2. Ces 2 classes-là, donc une classe de CP et une classe de CM1 dans chacune des écoles, donc 2 fois 2 classes, ça représente 104 enfants. Et donc on se focalise sur ces classes, donc ça permet le CE1 et CM, CP et CM, CE1 et CM, ça permet une comparaison par âge. Et avec cette sous-population, on a commencé par organiser et observer, via un enregistrement audio, des séances en groupe où on proposait aux enfants de classer du moins important au plus important, et on reprenait cette consigne de Bernard Zarka, que nous voyons en personne, nous avons la chance d'avoir ici, un certain nombre de professions, et de discuter collectivement ces classements. Donc ça, on détaillera tout à l'heure, donc j'en dis pas davantage. Ensuite, au-delà de ces premières tâches collectives, on a réalisé plusieurs entretiens approfondis et répétés avec la centaine d'enfants concernés, qu'on a pris 2 par 2, donc en binôme, des binômes qui constituaient eux-mêmes, et l'enjeu c'était notamment de créer une relation minimale leur permettant peut-être de résister un minimum à nous deux, quoi. Nous on arrivait 2 adultes, le fait qu'ils soient 2 c'était aussi une manière d'équilibrer un peu plus en fait la relation d'enquête. Alors, ces entretiens constituent le matériau central de notre analyse, et ils ont été l'occasion de recueillir le point de vue des enfants sur l'ordre social suivant 4 directions qui correspondent en fait aux 4 chapitres. Premièrement, des questions sur les conditions de vie des enfants, le logement, la composition de la famille, etc., mais aussi sur les rythmes de vie, autour d'une question qu'on a déroulée, qui a été très importante pour nous, sur le déroulement d'une soirée de la sortie de l'école au coucher, qui nous permettait de voir qui intervenait dans la vie des enfants, où est-ce qu'ils allaient, etc. Bon. Ça, c'est la première série de questions. Ensuite, des questions prolongeant les séances collectives sur les différents métiers, mais cette fois, des métiers qui n'étaient pas choisis par nous de manière assez abstraite, mais plus proches des enfants. Donc soit les faire parler des métiers de leurs parents ou de leurs proches, leurs parents surtout, mais éventuellement de leurs proches, soit leur poser des questions sur qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu voudrais faire, ce genre de choses. Mais des métiers qui étaient plus parlants pour eux, plus proches d'eux, d'une certaine manière. Ensuite, troisièmement, des questions relatives aux sociabilités enfantines, aux alliances enfantines, c'est-à-dire portant sur les amitiés et inimitiés entre camarades de classe, et dans une moindre mesure, c'est un aspect qui est apparu par l'enquête et qu'on n'avait pas décidé au départ, sur les histoires d'amour entre enfants. Enfin, quatrièmement, des questions sur la politique à la faveur de l'élection présidentielle d'avril-mai 2012. Donc plutôt la deuxième année, on a posé des questions sur la politique. Alors enfin, tout ça, on a cherché à le cadrer quantitativement en faisant passer un questionnaire à l'ensemble des enfants des 2 écoles. Ça représente 338 enfants en tout, dont la centaine qu'on avait suivie de près. Et ces questionnaires, donc, eux, ils étaient pour leur part centrés sur la politique. Ils incluaient des questions sociologiques classiques, sociodémographiques si vous voulez, et une question plus particulière sur les amitiés des enfants. On leur demandait en gros, on leur demandait à la fin du questionnaire, peux-tu nous citer 3 bons amis à toi dans l'école ? Et ça nous a permis de faire de l'analyse de réseau et de mettre en relation la question des perceptions enfantines des amis et des ennemis en recueillant un entretien avec des conditions, avec des structures, on va dire, plus objectives des relations, avec l'analyse de réseau. Donc vous voyez, peut-être un petit point quand même, je développe on s'est centré sur les enfants, sur leurs paroles, sur leur point de vue, mais tout l'enjeu de notre travail, c'est de ne pas confondre cette manière de les autonomiser relativement d'un point de vue méthodologique avec une autonomie théorique, c'est-à-dire faire comme si, en gros, c'était les deux des enfants que venaient tout. Au contraire, nous, notre travail, il est exactement orthogonal à ça, il est de dire comment, en partant de la parole des enfants, on peut essayer de retrouver des institutions, des structures sociales, des différenciations sociales. Voilà. Donc c'est tout l'enjeu de ce qu'on va vous raconter là, en fait, et c'est tout l'esprit général dans lequel on travaille. Ce qui me permet de rebondir quand même deux secondes sur la petite présentation qui a été faite rapidement. C'est un truc finalement assez classique maintenant. La sociologie de l'enfance telle qu'elle a été présentée, telle qu'elle a été introduite d'abord aux États-Unis sous le courant des Childhood Studies dans les années 90 et ensuite dans les années 2000, Sirota, etc., elle est exactement l'inverse de ça. C'est-à-dire, en gros, elle est vraiment dans un angle, en fait, qui est un angle, l'enfance, qui autonomise les enfants, pas seulement méthodologiquement, notamment pour mettre en évidence l'autonomie collective des enfants, donc la culture enfantine, dans ce qu'elle aurait de propre, voire l'autonomie de chaque individu enfantin autour de la notion d'agency ou d'agentivité enfantine. Donc ça, c'est important de voir la différence entre ça et par exemple, ce qu'a pu faire par exemple, le livre récent de Martine Cour, qui est une ancienne élève d'ici, si je ne me trompe pas, qui justement, en fait, est plutôt un manuel de sociologie de l'enfance, plutôt dans l'esprit de dire, bah non, la sociologie de l'enfance, ce n'est pas une sociologie à part, d'une culture à part et d'une action à part, mais c'est une sociologie finalement relativement classique, comme celle qu'on fait nous aussi, mais simplement appliquée aux enfants. Donc je laisse la parole à Julie pour vous présenter, pour entrer dans le fond du livre.
Oui, alors moi je vais en venir à la thèse générale du livre, mais en précisant d'abord que dans le livre, il y a pas mal de développements qui ne sont pas subsumables sous cette seule thèse, et je vais en donner un exemple qui n'est pas sans lien avec notre futur discutant. C'est ce qu'on raconte dans le livre sur les rapports différenciés qu'ont eu les enfants à l'exercice de classement. On a montré qu'ils étaient inégalement disposés à percevoir l'ordre social dans sa version légitime, celle qui met les riches au-dessus des pauvres ou les patrons au-dessus des ouvriers, non seulement du fait de différences de compétences, de style culturel entre les enfants, mais aussi du fait d'un intérêt inégal à reconnaître l'ordre social tel qu'il est construit. Et là, on insiste dans le livre sur le fait que derrière une apparente neutralité de la tâche et du classement, en fait, il y a une violence symbolique et qu'on peut résumer en disant qu'en classant, on se classe, ou autrement dit que classer, c'est se classer. Alors là, ce phénomène prend parfois une forme archétypique, comme lorsque Jeff, ici, fils d'ouvrier, place contre les représentations dominantes, en première position, il met l'ouvrier, et puis il rajoute à côté, sans qu'on lui ait demandé, bien sûr, il écrit « papa ». Donc là, vous voyez, bon, c'est une forme d'inversion totale, alors qui n'est pas ce qui revient le plus souvent. C'est un exemple archétypique. Mais néanmoins, on retrouve quand même cette idée d'intérêt différencié au classement dans les petites stats qu'on a fait après sur les rangs moyens accordés par les enfants aux 9 métiers. Et alors ici, là, j'ai mis le tableau sur les rangs moyens en fonction de l'origine sociale. Et on voit, donc dans cette idée qu'on n'a jamais intérêt à être classé tout en bas d'un classement, eh ben là, on voit que les enfants d'origine populaire, par exemple, classent moins bas la personne qui s'occupe du ménage que les enfants de classe moyenne ou supérieure. Juste, ça me permet de dire qu'en fait, pour tous ces métiers, on a fait en sorte qu'ils puissent être des métiers exercés par un homme ou une femme, même si pour la personne qui s'occupe du ménage, ils l'ont aussitôt requalifié en femme de ménage, malgré tous nos efforts. Il y a une réalité du monde social, voilà. Donc là, on voit un intérêt de classe au classement, qui a intérêt à ne pas être classé tout en bas, parce qu'effectivement, un certain nombre d'enfants, on a fait un développement dans le livre sur lequel je ne vais pas revenir aujourd'hui, mais sur la question des femmes de ménage, parce que finalement, c'est un métier bien connu des enfants, puisque souvent, soit ils ont leur mère ou leur grand-mère ou leur tante qui exerce ce métier, ou soit ils ont une personne qui s'occupe du ménage qui vient chez eux. Intérêt de classe, j'ai dit, mais on retrouve aussi des rangs différenciés en fonction du sexe. Donc là, c'est... On a séparé les rangs en fonction du sexe et on voit que les filles ont classé moins bas la personne qui s'occupe du ménage que les garçons, qu'on peut, et on en discutera sûrement après, on peut sûrement rattacher ça, il nous semble, à un intérêt de genre, à ne pas être classé tout en bas. Mais néanmoins, peut-être qu'on discutera de ça avec Bernard tout à l'heure, puisque lui, dans son travail, il trouvait que les filles classaient moins bien, entre guillemets, que les garçons. Et est-ce que c'est une différence de compétences ou est-ce que c'est une différence d'intérêt, comme il nous semble? La discussion est lancée comme ça. Alors, au-delà de ce genre de développement analytique particulier, on a bien défendu une thèse générale qui fonctionne comme un fil rouge tout au long du livre et qui renvoie à la notion, vous l'avez cité tout à l'heure, de recyclage symbolique. qu'on a finalement choisi, là aussi, après des années, des discussions houleuses, des questionnements, est-ce qu'on allait mettre transposition, est-ce qu'on n'allait pas mettre transposition, et puis aussi avec l'éditeur, etc. Finalement, on a choisi recyclage pour rendre compte d'un mécanisme qui est apparu sociologiquement essentiel dans les questions qui nous intéressent, hein, de sociogenèse des perceptions sociales. Alors, c'est quoi ce recyclage ? Pour nous, c'est un déplacement opéré par les enfants eux-mêmes, hein, des schèmes de vision, de hiérarchisation qui leur sont imposés dans les contextes pratiques de leur socialisation, hein, à la maison, à l'école, entre pairs. Et les enfants déplacent ces schèmes, ces critères de classement qu'on leur impose quotidiennement, ils le déplacent vers d'autres domaines de la pratique qu'ils doivent davantage découvrir, dans lesquels ils sont moins directement engagés. Autrement dit, hein, ce côté pratique pour nous est important. Le recyclage symbolique constitue une réponse à un problème pratique qui se pose aux enfants. Comment se repérer dans les zones du monde social que l'on ne connaît pas ou qui ne sont pas balisées d'avance? Et l'idée qu'on défend, hein, c'est que finalement, au moment d'élaborer un tel point de vue sur le monde social, politique, les enfants ont une forte tendance à imposer au monde politique, au monde professionnel, etc., les distinctions, les raisonnements, les registres thématiques qui leur ont d'abord été imposés à eux-mêmes au cours de leur socialisation et sous forme notamment d'injonctions éducatives. Injonctions à bien se tenir, à ne pas se salir, éviter le danger, avoir des bonnes notes, ne pas faire la fifi ou le garçon manqué, etc. Hein, des injonctions répétées, on y reviendra, des mots d'ordre qui deviennent régulièrement les mots de l'ordre pour eux, c'est-à-dire ceux qui vont employer spontanément pour classer des personnes, des groupes, des comportements sociaux et politiques. C'est important pour nous, finalement, de parler de recyclage parce qu'il s'agit, en quelque sorte, pour les enfants, de donner une seconde vie à des formes symboliques. Je dis formes symboliques pour ne pas dire des mots, parce que des fois, c'est des mots, des injonctions, des schèmes. Ils donnent une seconde vie à des formes symboliques qui étaient initialement dédiées à un autre enjeu pratique que de se représenter le monde. C'était dédié à leur socialisation, à une efficace socialisation. Et c'est pour ça que les utiliser finalement pour se repérer dans le monde social, après j'ai donné des exemples beaucoup plus concrets, hein, ça constitue un recyclage et non une simple répétition ou une transposition littérale. Là aussi, pour prévenir quelques remarques qu'on a parfois, on ne dit pas, il arrive bien sûr, hein, que les parents cherchent à transmettre de manière explicite une vision du monde. Par exemple, à l'occasion d'une soirée électorale, les enfants nous racontent « Ah ben oui, quand papa il a vu Marine Le Pen, ben, il m'a expliqué, en gros, il lui a expliqué très précisément pourquoi il fallait ne pas l'aimer. » Et l'enfant est capable de nous restituer ça et s'approprie ainsi le goût parental. Mais notre conviction, c'est que ces épisodes éducatifs, hein, pour parler comme Durkheim, c'est-à-dire éducatifs au sens de la part explicite de la socialisation, ils existent, mais il nous semble qu'ils sont moins puissants que le recyclage qu'on pointe et qui est beaucoup plus quotidien, implicite, etc. Avant de donner des exemples avec des mots des enfants beaucoup plus concrets, puis d'incarner tout ça, il faut préciser que notre source d'inspiration théorique principale, c'est sans aucun doute la psychologie culturelle de Lev Vygotsky, prolongée entre autres par des chercheurs comme Jérôme Brunner. Et ce que pense cette psychologie, c'est justement la question des moyens de penser, en tant qu'il détermine au moins pour partie les opérations cognitives. Et pour la psychologie culturelle, hein, ces moyens, ces instruments de pensée sont avant tout d'ordre linguistique. C'est vraiment le mot qui est à la base du concept et de la théorie vygotskienne. Le récit, à la base de l'éthos chez Brunner. Et de notre côté, on est assez œcuménique là-dessus, ça peut être le mot, les schèmes, les registres, les injonctions. Mais on insiste du coup sur le caractère pratique du langage qui est en jeu dans la socialisation enfantine. Et par contre, ces instruments de pensée peuvent être, comme on va le montrer, les mots, des anecdotes, des expressions, pour peu en fait qu'elles aient été répétées quotidiennement par des adultes socialisateurs. Et donc, c'est cette idée de recyclage qu'on est amené à incarner, détailler, raffiner tout au long du livre, et que je vais maintenant donner à voir sur la question des perceptions enfantines des classes sociales, enfin à partir des perceptions enfantines des métiers. Alors, sur les métiers, donc on s'est servi des séances collectives de classement des métiers. Effectivement, ce qui est important à dire aussi pour pouvoir discuter avec Bernard Zarka, c'est que nous, on a décidé de faire classer les enfants collectivement, enfin, les mettre, en tout cas, on les avait par demi-classe, en l'absence de l'instituteur. On avait repris, comme l'avait fait Bernard, trois métiers appartenant aux classes sup, hein, selon les classements INSEE, architecte, patron d'usine et prof pour les classes sup, infirmière fleuriste et boucher pour les classes moyennes, et personne qui s'occupe du ménage, ouvrier sur un chantier et vendeur ou vendeuse dans un magasin de jouets pour les classes populaires. Alors, effectivement, on est parti sur le terrain avec l'idée de répliquer l'enquête menée par Bernard. Juste, je précise, la consigne, c'était pas de classer du plus important au moins important. Justement,
c'est celui qui va le plus haut. Ouais.
Exprès flou, comme vous le disiez, classe depuis celui qui te semble aller tout en haut jusqu'à celui qui te semble aller tout en bas. Puisque après, comme on devait les faire discuter et comprendre comment ils avaient classé, on faisait exprès de pas donner, évidemment, de critères de classement. Puisqu'après, on discutait. Donc, on leur a fait classer, on les a fait coller. Et après, on a enregistré les discussions collectives sur comment vous avez classé, pourquoi, etc., etc. Et finalement, au fur et à mesure de quand on a mené tout ça, on s'est retrouvé finalement peut-être moins intéressé que vous par les résultats du classement que par les manières de classer, hein, notamment parce qu'on explicitait dans un cadre collectif. Et dans ces manières de classer, on a mis, c'est devenu peu à peu évident, l'importance de critères d'origine domestique, donc associés prioritairement à la socialisation quotidienne des enfants à la maison, dans l'évaluation des réalités professionnelles. Alors, ces critères, il y a différentes questions, mais ils touchent pour beaucoup à la question de l'hygiène et du maintien des corps, hein, qui sont des domaines pratiques de première importance dans le travail éducatif parental quotidien à cet âge-là. Et un premier schème relatif à l'hygiène est omniprésent dans les propos enfantins, c'est le propre versus le sale. Donc, les extraits, il y en aurait 1000, mais on en met deux, enfin un seul ici. Donc là, je demande dans une séance de CP à Auria, une fois qu'on a parlé des classements, j'ai dit, tu voudrais faire quoi comme métier plus tard ? McDo, donc travailler dans un McDo. Donc là, c'est le brouhaha total, on est complètement dépassé, les enfants se mettent à crier, oh ça pue le McDo, ils mettent du caca dans les hamburgers, oh non, tu crois, si, je te jure, ils donnent des bonbons aux enfants pour leur faire passer la pilule, mais en fait c'est du caca dans les hamburgers, etc.
Bon, ils disent pas faire passer la pilule, hein.
Non.
Ce sont des grands-parents qui sont plus tellement hésités dans les cours de récréation.
Et plus loin dans le même échange, Ouria, qui voulait travailler chez McDo, elle dit « Moi, j'aime pas archéologue parce que c'est dégueulasse. » Donc, Wilfried lui dit « Pourquoi ?»« Je sais pas. » Et là, il y a Naïma, qui l'aide, en fait, hein, et qui, à propos du métier d'archéologue, dit « Moi, je m'étais salé le visage, alors j'aime pas trop la poussière. Une fois, j'ai creusé, c'était pas bien. J'ai fait un grand trou avec la terre. » Donc, cette récurrence, en fait, de la dépréciation des métiers par la saleté, la poussière, les excréments ou les microbes, on a plein d'exemples aussi sur les microbes, elle peut paraître étonnante à première vue. Hein. Pourquoi est-ce que les enfants développeraient une vision du monde social particulièrement hygiéniste ? En fait, c'est qu'on retrouve là en creux, hein, tout ce qui fait l'objet d'un apprentissage méthodique dans la sphère domestique de ce dont on doit se tenir à l'écart, de ce dont on doit être dégoûté, hein, puisque les pratiques socialisatrices parentales à cet âge-là, sont notamment destinés à apprendre quotidiennement aux enfants le dégoût des choses sales. Hein. Touche pas à ça, c'est dégoûtant. Enlève ta main de là, tu vas te salir. Enlève tes doigts de ton nez, etc. Touche pas à ça, il y a plein de microbes. Et donc, l'apprentissage de ce dégoût des choses sales, hein, aboutit à ce que les enfants intériorisent la légitimité de ces jugements dépréciateurs, suffisamment en tout cas pour qu'ils en fassent et qu'ils les utilisent, hein, comme des instruments d'appréciation et de classement des métiers, des hommes politiques, comme on le verra. Et donc, quand Naïma, à la fin, raconte qu'elle n'aime pas la poussière, hein, pour aider sa camarade à légitimer son appréciation négative du métier d'archéologue, on entend presque parler ses parents. Vous voyez ici, quand elle dit « une fois, j'ai creusé et c'était pas bien ». Donc là, elle nous fait quasiment revivre, en fait, hein, cette scène socialisatrice à la source du langage recyclé qu'on postule, puisqu'effectivement, nous, on n'est pas allé dans les familles. Ce qui est important à noter ici aussi, avant que je passe au CM, c'est qu'on voit ici que quand les enfants sont petits, le recyclage du schéma propre sale ne conduit pas forcément à la reconnaissance de l'ordre social dominant, puisque vous voyez, en fait, là, il sert aux filles à déclasser le métier d'archéologue. Sauf que ce genre d'erreur, ou en tout cas de classement, on pourrait dire non réaliste, avec l'âge, hein, ce genre de distorsion tend à disparaître. Là, on a un extrait de carnet de terrain en CM, où le sale continue à être omniprésent, mais s'associe systématiquement au métier d'exécution. Hein, Kojo qui ne voudrait pas faire le ménage car tu dois nettoyer, si un enfant il fait caca partout dans les toilettes, tu mets ta main dans le caca, c'est dégueulasse. Ramzi qui voudrait pas être plombier parce que c'est sale, t'as les mains sales, les canalisations c'est dégueulasse, Raïssa qui voudrait pas conduire les camions de poubelle parce que c'est dégoûtant, etc. Jusqu'à Quentin qui veut pas travailler en usine parce que ça schmoute, ça pue. Donc là, on a femmes de ménage, plombiers, éboueurs et ouvriers en usine qui sont dépréciés par des enfants d'origine sociale diverse et qui les associent pour se faire à des activités salissantes et malodorantes. Donc, vous voyez, ce schéma sale propre reste hein, chez les plus grands. Donc, il y a une certaine autonomie relative des classements enfantins autour de cette question d'hygiène des corps. Et c'est par ce genre de voie finalement très concrète, puisqu'il s'agit pour eux de qualifier des corps professionnels, hein, que les hiérarchies sociales deviennent en quelque sorte parlantes pour eux. Donc là, j'ai un peu développé un peu longuement le schéma sale propre. Dans le prolongement, il y a aussi le schéma sain malsain, puisqu'effectivement, beaucoup de parents disent aux enfants de ne pas toucher aux choses sales parce qu'ils pourraient... attraper des microbes et être malade. Donc là, on a des exemples. Moi, j'aime bien surtout raconter, quand on a peu de temps, celui du milieu, qui est parce que c'était au début du terrain, j'étais dans la cour de récréation, puis une petite Anna de CP qui vient, puis je lui demande ce qu'elle pense de fleuriste. Elle me dit, oh, fleuriste, il y a des roses, c'est bien, mais les roses, ça pique. Et moi, je ne suis pas vaccinée contre le tétanos. Donc là, vous voyez, dans ces moments-là, c'est vraiment le genre de moment où on se dit, ah, peut-être qu'en fait, on aurait dû laisser ce sujet aux psychologues. Et en même temps, c'est aussi ce genre de choses où je l'ai noté dans le carnet de terrain en me disant « qu'est-ce qu'on va faire de ça ?» Et en fait, à force, c'est après, franchement, c'est vraiment des années après qu'on construit ce modèle et qu'on peut rattacher ça à cette question de recyclage.
Pareil pour le passage de broie de tout à l'heure. C'est des moments où, en fait, on pensait plutôt qu'on était en train de perdre la main sur l'entretien. Quand on commence à voir le caca, etc., on se dit « bon, ok, on va revenir aux vraies questions. Bon. »
Ouais. Ou des enfants qui disent « je ne voudrais pas être conducteur de train parce que le caca, il tombe sur les rails. » Bon, on se dit, est-ce que c'est juste, oui, c'est le côté pipi-caca des enfants. Et en fait, voilà, sauf qu'en fait, si on arrive à y trouver une place dans ce modèle de socialisation, bah, et à ce moment-là, on comprend que bah, ça devient des instruments d'appréciation et pour penser le monde social. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Wilfried qui va continuer. Parce que là, vous voyez, j'ai parlé du recyclage que depuis la sphère domestique vers la sphère professionnelle.
Un des enjeux, en fait, de cette... Les études de cas ne sont pas purement parallèles les unes aux autres. L'idée, c'est d'avancer d'une étude de cas à l'autre et des métiers aux camarades, bah, d'essayer notamment d'examiner s'il n'y aurait pas d'autres sources, en fait, en termes de lieux de socialisation, en fait, qui se retrouveraient, en fait, qui seraient pris dans cette logique de recyclage. Sachant, je le précise, que ce qui nous intéresse, nous, fortement, c'est de documenter cette logique de recyclage et que la spécification de telle source en particulier, de dire « mais est-ce que c'est vraiment à la maison qu'on apprend l'hygiène plutôt qu'à l'école, etc. », nous intéresse un peu moins. C'est-à-dire, effectivement, ça peut se recouvrir, c'est jamais aussi efficace que quand c'est redondant, etc. On a attribué aux différentes sphères de socialisation, par exemple l'hygiène au domestique, notamment quand c'est le premier lieu où on en parle, quoi. Bon, alors, cette précision faite, donc comment ça fonctionne pour les perceptions enfantines des amis et des ennemis? Il faut d'abord, ce qu'on fait, c'est que d'abord on essaie de reconstituer, comme je l'ai un peu dit en introduction, l'univers objectif, entre guillemets, je mets objectif parce que quand même en dernière analyse c'est quand même des déclarations des enfants sur les amis, mais des enfants en faisant une analyse de réseau, donc qui correspondent à cette réponse à ces questions, en fait, trois bons amis à toi. C'est pas le lieu ici, en fait, de développer ces sociabilités, on l'a fait dans un article pour Genèse, on va simplement vous dire un peu ce qui nous importe ici, c'est qu'elles sont structurées, socialement, pour aller vite, il y a des variables qui les structurent, qui apparaissent, donc on va pas prendre, donc il y a les quatre réseaux des quatre classes, mais on va prendre par exemple sur celui-là, par exemple, donc c'est les CM2 de l'école B. Qu'est-ce qui structure, en fait, ces graphiques? La première chose, en fait, ces graphes, la première chose qui les structure se voit pas, en fait, sur l'écran, mais c'est la logique d'âge et de classe scolaire, puisqu'on demande aux enfants trois bons amis dans l'école, et ils nous répondent trois bons amis dans la classe, essentiellement. Hein. Donc c'est l'âge entretenu par l'institution scolaire de manière indiscernable. Mais une fois qu'on est dans le graphe, d'une certaine manière, vous comprenez tout de suite ce qui est structurant, si vous avez bien vu que les triangles sont des garçons et les ronds sont des filles, c'est la séparation entre cette espèce de norme que sont les filles, où là c'est que des filles, sauf ici, et là c'est que des garçons. Alors vous voyez, avec le truc qu'on commande pas, mais avec le lien qui est fait par des garçons des classes supérieures. Hein, qu'on retrouve dans le modèle graphique, parce que c'est pareil, vous voyez, là c'est pareil. Hein, c'est-à-dire, en gros, c'est par les garçons des classes supérieures qui ont un ou deux liens avec l'autre grand cluster. Bon, c'est assez intéressant parce que ça correspond aussi avec des manières d'être, cheveux longs, etc. Croiser les jambes. Remets le précédent, ou celui-là peut-être. Alors, donc le genre, hein, en fait, est hyper déterminant dans la structuration. C'est des choses que je retrouve, là, je viens de traiter les données sur la crèche, à 2-3 ans, en fait, c'est également le cas. C'est-à-dire, en gros, il y a déjà de la saturation par genre, en fait, à 2-3 ans, dans les sociabilités objectivement observables. Ensuite, dans ces clusters-là, une organisation apparemment aussi dépendante, pour le coup, mais à un niveau plus fin, donc relativement secondaire, des deux autres variables qu'on a choisies, c'est-à-dire l'origine sociale et l'origine migratoire. Donc l'origine sociale, c'est plus c'est foncé, plus c'est populaire, plus c'est clair, plus c'est favorisé. Et l'origine migratoire, on a pris juste des enfants. Les enfants encadrés sont des enfants issus de l'immigration africaine et asiatique, c'est-à-dire au moins un des parents. Donc ça se mêle énormément sur notre terrain, donc je ne vais pas les distinguer l'une de l'autre, mais simplement ce que vous voyez, c'est des clusters, effectivement. Vous voyez, hop, ici un petit groupe de filles plutôt classe supérieure, ici un petit moment un peu populaire, là un petit groupe plutôt supérieur, et là, vous voyez par exemple ce dernier groupe là. Homogamie, homophilie plutôt complète d'origine sociale et d'origine migratoire. Tu peux montrer juste rapidement quand même le CM2 par exemple. On le retrouve aussi en fait chez les CM, mais c'est plus éclaté. Donc sur les CP, vous voyez là c'est extrêmement clair. Vous voyez, vous avez un groupe entièrement populaire et quasiment exclusivement
issu
de l'immigration. Et le groupe intermédiaire là, il est non seulement il est moyen et non immigré, et il fait la transition avec l'autre groupe de sexe. Donc on pourrait discuter sur les relations genre-race-classe dans ces réseaux qui se voient énormément. Parce que vous voyez que pour passer d'un groupe de filles à un groupe de garçons, au fond, on passe par l'origine sociale. Bon, alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, j'étais trop long pour là-dessus, mais comme c'est toujours un peu marrant quand ces trucs-là se développent un peu, mais en gros, l'idée, que pour rester sur notre objet, nous, c'est les perceptions enfantines dans le genre social. Donc c'est comment ils perçoivent ça? Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne le perçoivent pas en utilisant, au fond, des variables sociologiques ou quasi-sociologiques. Ils ne disent pas « je l'aime pas » ou « je l'aime bien » parce qu'il est proche de moi en termes de sexe, d'origine sociale ou d'origine migratoire. Ben, ça pourrait. Ils pourraient dire, évidemment, ils ne diraient pas « origine migratoire », mais ils pourraient dire « je l'aime pas parce qu'il est noir », ce qui peut arriver, d'ailleurs, en fait, ou « je l'aime pas parce qu'il est pauvre, parce qu'il s'habille mal ». Enfin, bon, c'est un peu plus compliqué sur s'habiller mal. Mais justement, c'est ça qui nous intéresse. Donc, c'est quels sont les critères qu'ils vont utiliser spécifiquement. Et bien là, on retrouve des logiques de recyclage. Alors, la première logique de recyclage qu'on voit, enfin, le premier type de choses, de formes symboliques qui sont recyclées, je ne vais pas le répéter, mais c'est les mêmes que ce qu'on a vu sur les métiers, c'est-à-dire des logiques autour de l'hygiène et du maintien des corps qui sont issues de la sphère domestique. On ne va pas aimer, nous disent donc les enfants en entretien, très massivement, on ne va pas aimer donc les camarades parce qu'il est sale, parce qu'il pue, parce que son apparence physique, parce qu'il a vomi la dernière fois quand on est allé en classe de... Donc ça peut... Vous voyez, encore une fois, on vous montre, on pourra en discuter un peu. Nous, pour cette enquête-là, peut-être qu'on va avancer aussi petit à petit, on sera plus précis, mais on a été assez œcuménique dans les formes, dans ce qui est recyclé. Ça, vous voyez, des fois, c'est plutôt des schémas, mais par exemple, des anecdotes qui circulent visiblement sur un gamin qui a vomi dans le...
À la piscine,
ou qui a vomi en classe verte, c'est un truc qui va être utilisé régulièrement pour déclasser cet enfant-là. C'est vraiment la preuve qu'il est nul, quoi. Enfin, ouais, bon. Alors, ce que je voulais développer, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, autour des amitiés, ce qu'on voit beaucoup, c'est aussi, donc, là, je me déplace sur la question du scolaire. C'est-à-dire qu'il y a une source scolaire, en gros, la socialisation scolaire, les injonctions scolaires, etc., eh bien, en fait, font l'objet d'un recyclage, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées dans les classements des amis. Alors, regardez l'exemple ici. Donc, c'est avec Élise, une fille de milieu favorisé. Je demande, mais qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui, Fouad, en fait? Retenez bien quand même en Fouad. Élise, il n'est pas intelligent, il n'est pas rigolo. Et comment tu sais qu'il n'est pas intelligent? Il a des mauvaises notes, puis je n'aime pas parce que tu vois, c'est mon voisin d'appartement, il est juste au-dessus. Il fait plein de bruit, des fois, quand on s'endort, on entend des balles, boum, boum, boum. Alors, on a fait exprès de prendre cet exemple-là, au passage, pour vous montrer d'emblée que c'est positionné théoriquement notre truc de recyclage. Ça n'annule pas d'autres forces, en fait. Il est, par exemple, matériel, du type proximité sociale et distance... proximité spatiale et distance sociale, pour ceux que... connaissent ce texte de Chambourdon, c'est-à-dire il y a des choses qui sont de l'ordre d'une expérience concrète, directe, etc. Donc ça va avec. Bon, deuxième exemple avec des CP cette fois, donc toujours donc, sur les logiques de recyclage de type scolaire. Julie demande 5 copains, donc c'est avec Bella et Eudiane, deux filles d'origine plutôt populaire, issues de l'immigration algérienne et turque. Donc Julie leur demande à ces deux filles... Alors, c'est un copain, Julien ? Non, il ne sait pas écrire. Il ne sait pas écrire, il écrit gros. Quand on écrit là, il prend la page, il écrit. Il écrit elle, et après, il a pas de place. Il écrit trop gros. Mais du coup, c'est un copain, Julien ?
Oui, là, on n'a pas compris, quoi. Moi, quand je pose cette question, on n'a pas encore fait ce modèle. Donc, pour moi, elle n'avait pas répondu. Donc, je repose la même question.
Bah, c'est la même logique qu'on s'est parlé tout à l'heure. C'est qu'à ce moment-là, on ne sait pas trop. Donc, on dit, oui. Bon, pas à moi, pas à moi. Alors, je lui dis, pourquoi alors ? Avec l'espoir d'avoir une vraie réponse. Et la réponse, c'est. Parce que c'est un cochon, la maîtresse elle dit que c'est un cochon, moi aussi on dit que c'est un cochon, on est d'accord avec Bella et moi, parce qu'il écrit gros, personne n'aime. Alors, juste commencer, c'est peut-être cette dernière phrase, ce second extrait avec trois choses. Le premier point, c'est que on voit bien avec la dernière phrase comment se mêle jusque dans l'expression enfantine, justement, et ça va dans le sens de cette idée de recyclage, l'expression du socialisateur et celle du socialisé. Vous voyez, c'est cette, syntaxiquement, ça devient carrément. Moi aussi, on dit que c'est un cochon. C'est-à-dire, on se retrouve dans une espèce de situation d'association de la première personne. On a travaillé un petit peu ça précisément dans le livre à un certain moment, l'usage des types de personnes qu'on utilise dans le classement. C'est-à-dire, on voyait aussi dans les classements, par exemple, que les petits disent beaucoup plus « j'aimerais pas faire ça parce que je ferais ceci ».
Je serais sale.
« J'aimerais pas être fleuriste parce que je peux me piquer ». Alors que vous voyez, quand on arrive dans les âges plus âgés, ils ont des. En tout cas, c'est juste qu'on a une attention aux personnes. Et là, on voit très bien, quand on a cette attention-là, que là, il y a une formulation un petit peu. Qui va dans le sens de cette espèce de fusion entre le socialisateur et le socialisé. Bon, j'insiste pas. Le deuxième remarque, c'est que le recyclage depuis la socialisation scolaire, il correspond à la fois à une insistance sur des critères formels de hiérarchisation, comme vous pouvez l'imaginer, typiquement les notes, il n'est pas bon en classe, etc. Mais aussi, dans les extraits que vous venez de voir, qui concernent de manière. Remarquable et attendu des CP, des critères plus informels, ici, écrire gros, donc c'est Julien qui est déclassé parce qu'il écrit gros. Mais ailleurs, ça va être se tenir droit et tous les éléments constitutifs de ce qu'on appelle le métier d'élève. C'est-à-dire, en gros, quand on fait pas le métier d'élève, ben effectivement, on peut être déclassé. C'est important parce que ça explique qu'au CP, alors que l'évaluation est moins forte, la logique de recyclage, elle est possible. C'est-à-dire qu'en gros, l'injonction scolaire, elle existe quand même par des voies qui sont moins formalisées, mais qui sont quand même perçues par les enfants. C'est important aussi, autre question qui est d'ailleurs souvent abordée par les journalistes qui disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» C'est, il se trouve qu'une des deux écoles dans laquelle on a enquêté, une école qui se veut très peu évaluatrice, avec peu de formalisation des notes, etc., donc pas de notes, voilà, ça n'a pas empêché que les logiques de recyclage scolaire soient tout aussi fortes, en fait. Parce que les enfants, d'une certaine manière, trouvent toujours une solution pour saisir ces hiérarchies et les réappliquer. Donc, je l'aime pas parce qu'il m'est minant à répondre aux questions, parce que...
Il participe pas,
voilà. Il est toujours aidé par les autres. Des critères, en fait, qui sont informels, mais qui sont tout à fait classants également. Et la troisième remarque que je voulais faire, qui est importante, c'est que les enfants dans ce dernier groupe, vous voyez que c'est des CP d'origine plutôt populaire qui utilisent des critères scolaires. Donc ils recyclent volontiers ces critères scolaires qui, pourtant, on peut imaginer, leur sont globalement défavorables, ces enfants des classes populaires. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est c'est tellement vrai qu'on retrouve même des cas limites, comme le cas de Fouad, par exemple, le mauvais élève de CM1, qui était tout à l'heure, j'avais aussi dit, retenez son prénom.
Fouad, il est là-haut.
Fouad, qui est là-haut. Bon, voilà, qui est par ailleurs une queue de réseau, donc objectivement, il est relativement isolé, et qui, lui, va dire qu'il n'aime pas Fanta, qui est à l'autre bout, parce qu'elle a des mauvaises notes. Donc vous voyez, là, ce Fouad-là, il dit de elle, donc c'est comme ça qu'il a des classes, mais c'est lui aussi dont il est question dans le premier extrait que j'ai cité, dont on dit « pourquoi tu n'aimes pas ?» parce qu'il n'est pas intelligent, il n'est pas rigolo, il a des mauvaises notes. Donc vous voyez, cette logique-là, elle va dans le sens du fait qu'on n'a pas de remise en cause, sur notre terrain en tout cas, on n'a pas de remise en cause particulière de ces hiérarchies scolaires. En fait, pour tout dire, c'est quelque chose qu'on attendait, qu'on a eu tendance au bout d'un moment dans l'enquête à essayer de voir, de favoriser un peu, de dire « est-ce que vous n'avez pas envie de parler de ça un petit peu ?» Notamment en introduisant des termes comme « intello », comme « faillot », des termes que moi j'avais déjà vu sur notre terrain, qui existent aussi, « faillot », si vous avez lu Paul Willis, qui sont dans la littérature, pour parler justement de ces questions de culture antiscolaire. Ces choses-là n'étaient pas présentes, en fait, pour nos enfants. Julie pourra parler sur l'enquête à Saint-Denis, c'est un peu différent, au même âge. Bon. Mais derrière cette question de la culture scolaire, antiscolaire, au fond, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une troisième source possible, en fait, de recyclage, donc après le domestique, et puis après la question du scolaire, c'est le groupe de pères en tant qu'il a une dimension instituante, pour autant qu'il existe, pour autant qu'il peut, instituer des hiérarchies relativement autonomes, comme par exemple des hiérarchies sur gros intello ou faillot, ou bourges, voyez, un certain nombre de choses qui vont être portées par le groupe de pères en particulier. Alors sur notre terrain, je vous l'ai dit, il n'était pas porteur de hiérarchie antiscolaire, mais par contre, on a quand même vu quelques petites choses en fait, qui correspondent à des formes symboliques qui nous semblent relativement portées par le groupe de pères, notamment autour des questions de genre, autour du fait de se comporter comme une vraie fille ou pas comme une vraie fille. Alors vous allez voir un exemple, on va vous montrer en fait de quoi il est question. C'est un exemple avec Violaine. Donc Julie lui dit « Et Violaine, alors vous en pensez quoi ?» En gros, Lisa va sur le ton du dégoût. Violaine, c'est un peu un garçon manqué. C'est ça le terme en fait porté par le groupe de pères pour nous. Ouais, c'est trop un garçon manqué. Et puis elle joue tout le temps avec les garçons. Elle n'a pas d'amis filles. Et Jean, elle parle comme les garçons. Elle aime les mêmes choses que les garçons, etc. Donc vous voyez, c'est ce type de choses qu'on a en tête. Tu veux parler du... Parce que ouais. C'est une discussion entre nous. Mais ce n'est pas que des questions en fait, de déclassement des filles qui seraient pas assez filles. c'est aussi des questions vraiment de genre, de ne pas avoir la bonne féminité ou de ne pas avoir la bonne masculinité, comme dans l'extrait
suivant. Ou en fait, là, c'est des critiques de style de féminité entre filles ou de style de masculinité entre garçons. Là, l'exemple, c'est... donc, je demande à Audrey, Rosane et Sophie. Audrey, elle dit « Je la déteste ». Rosane en rajoute « Et il y a Nejma aussi que je déteste. Ouais, elles font trop les belles ». Et alors, Wilfried dit « Est-ce que vous aimez bien comment elle s'habille, Sophie ?» Non, parce que des vêtements sautés, Rosa dit des vêtements trop roses. Alors, Audrey nous explique, sauter, ça veut dire quand tu te montres trop, comme ça, elle mime des vêtements moulants. Rosane, elle dit « Ouais, elle met des pantalons là, moi, je déteste le rose, elle met du rose. » Et puis, Rosane, quand on rajoute « Moi, j'adore le bleu, je déteste le rose parce que ça fait trop, ah, je suis belle. » Donc... Ces dégradations symboliques, hein, typiquement des filles qui vont dire d'autres filles qu'elles ne les aiment pas parce qu'elles s'habillent en rose, recouvrent, comme vous l'aurez compris, des différences de classe. Si on revient au graphe 2, eh ben, Rosane est au cœur d'un cluster, elle est en haut, Rosane, d'un cluster d'amis situé au nord, constitué exclusivement de filles des classes supérieures non issues de l'immigration, alors que Sophie, qui a le mauvais goût de s'habiller en rose, elle appartient au petit groupe de 5 filles appartenant aux classes populaires, majoritairement issues de l'immigration. Sophie, elle est fille d'une employée de la grande distribution et d'un père au chômage, handicapé, ses deux parents étant d'origine serbe.
Donc, tu fais un mot sur la politique quand même.
Sur la politique, je vais le faire très brièvement. En gros, on retrouve les logiques de recyclage dont on a parlé dans Poutou, c'est après. On retrouve en gros les trois grands type de recyclage, hein, depuis des schèmes domestiques, des schèmes scolaires et des schèmes liés au groupe de pères. Pour. Si je vais commencer par le, scolaire, très présent, on n'aime pas Sarkozy parce qu'il ne sait pas bien le texte de son intervention. Hein, on se moque de Philippe Poutou parce qu'il a eu 2%. Vous voyez, c'est ce qu'on voit tout en bas là. C'est lui qui a eu 3%, il est nul. Vous voyez, dans le il a eu. Les enfants associent ces pourcentages à des notes, en fait. Il est nul, il n'a eu que 2. Ah, si les adultes, on dirait il a fait 2%. Ou encore, on va déprécier Mélenchon. Ça qui est intéressant, malgré le fait que c'est dans des familles où les enfants savent que leurs parents votent Mélenchon, mais ils vont nous dire, ben oui, mais lui, il parle trop fort, il coupe la parole aux journalistes. Alors, on entend très bien, il ne faut pas couper la parole à un adulte. Il est toujours grognon, etc. Donc, des choses qu'on leur reproche à eux aussi.
Ce qui est mis en compétition, là, vous voyez, c'est à ce moment-là, justement, de la logique de recyclage et de la logique explicite dont on parlait tout à l'heure.
Ouais.
Explicitement, ils l'ont dit, Mélenchon, c'est notre candidat. Et voilà. Mais le gamin, il fait, oui, mais enfin bon, quand même, il fait des trucs qu'on ne fait pas à l'école, en fait. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais ouais. C'est ce qu'il reproche.
Après, on retrouve aussi, j'en avais mis d'autres.
Ça, c'est des extraits.
Ça, c'est des extraits de la bande dessinée dont on vous a parlé tout à l'heure, présidentielle.
Mais on retrouve des choses qui sont très
très
proches.
J'ai pas amené, mais c'est vrai que ça avait faire cette enquête en 2017, ça m'a permis aussi de confirmer, de retrouver plein de choses qu'on avait vues, des logiques de recyclage. Et donc là, par exemple, vous voyez les enfants qui disent que Macron, il était complètement jaloux parce que ça l'avait énervé que... Non, Mélenchon, ça l'avait énervé que Macron lui copie dessus en faisant une chaîne YouTube. Donc voilà, les logiques de « il est triché, il a copié », etc. Donc ça, c'était vraiment... C'était très mal jugé. Donc, des schèmes scolaires, bon, il y en a pas mal. Chez les petits, bon, voilà, on n'aime pas Marine Le Pen parce que déjà, elle dit des gros mots. Alors, les gros mots, typiquement, ça peut être des choses qui peuvent venir à la fois, puis c'est redondant, c'est à la fois scolaire et familial, hein, ça se renforce, mais c'est très présent. Des schèmes domestiques pour juger la politique, extrêmement présents et massivement recyclés, hein, des jugements relatifs au corps, au maintien des corps, à l'hygiène, à la beauté, à la laideur, avec beaucoup de Marine Le Pen, elle est moche, ou alors elle est sale parce qu'elle s'habille toujours avec les mêmes habits. Hollande, il a un gros nez, il a une tête de vieux, il a des cernes, je ne sais plus qui elle est dans salle. Louis n'aime pas Sarkozy parce qu'il a les cheveux gris, ou Quentin nous dit de Hollande qu'il est moche, c'est un gros lard, avant d'ajouter qu'avec sa coiffure de merde, vraiment, on dirait Homer, etc. Et dans ces chaînes domestiques recyclées, il faut qu'on place ici aussi la sexualisation des candidats qu'on n'aime pas. Alors nous, en 2012, c'était Sarkozy. Donc ça a été très présent. Alors soit, dans un premier temps, soit on se dit, bon, bah oui, c'est les enfants qui font ça, ils mettent du zizi partout, sauf que quand on regarde, ils ne sexualisent que les candidats qu'ils n'aiment pas. Et en 2017, moi, c'était Trump, il a un gros zizi. Mais avec un côté, en fait, dit comme ça, bon, on se dit, est-ce que c'est vraiment subversif? Mais pour eux, je peux vous dire, c'est une vraie insulte. C'est contrairement pas... à... C'est un autre débat, d'autres pourront penser. Mais, et là, évidemment, c'est à rattacher à ce que je disais tout à l'heure sur le côté... Dans les parents qui apprennent quotidiennement aux enfants le dégoût des choses sales, bah, la question de la sexualité, montre pas ton zizi, cache ça, ou ce qu'il faut garder pour la sphère privée, c'est effectivement très présent. Donc pour un enfant, dire, associer un candidat à un zizi, c'est le comble de l'insulte, bon, de la dépréciation. Et enfin, aussi des recyclages issus des groupes de pères avec des déviances de genre voilà, qui vont être associées à certains candidats pour les dévaloriser. Et donc, principalement là aussi, avec des exemples de garçons qui nous disent que Marine Le Pen, il la déteste parce qu'elle s'habille comme un garçon ou alors elle crie trop fort. Il nous dit qu'elle essaye de faire comme François Hollande alors que quand même, c'est une grande maintenant, c'est une femme, elle devrait agir comme une vraie femme, etc. Donc, avec ces logiques-là, en gros, et là aussi, on peut bien dissocier. Ils savent que leurs parents n'aiment pas Marine Le Pen et que donc ils ne l'aiment pas. Mais les premières manières de construire un raisonnement de pourquoi sont pas celles, ou pas forcément celles peut-être, qu'auraient exprimé leurs parents. Donc je m'arrête là pour qu'il y ait le temps.
Et qu'il y ait un tout petit mot en fait de conclusion un peu théorique en revenant sur en gros qu'est-ce qu'on pense apporter au-delà de la question de la sociogenèse des perceptions d'ordre social à la théorie de la socialisation que nous on préfère appeler sociogenèse des pratiques ou sociogenèse de l'habitus. Parce que justement en fait c'est faire ça pour nous c'est notamment se positionner par rapport à la théorie de l'habitus. Donc pour aller vite en gros c'est la conclusion du livre. Vous voyez, on a parlé énormément de langage, en fait, dans ce travail, de recyclage de formes symboliques. Or, en fait, chez Bourdieu, il a eu tendance, lui, au contraire, à liquider le langage dans sa conception d'incorporation, déjà en parlant d'incorporation plutôt que de socialisation, donc en insistant sur le corps, parce que, à ses yeux, le langage voulait dire, et à mon avis, pas sans raison, voulait dire intellectualisme et justement conception apratique, en fait, de la socialité. En tout cas, de choses plutôt incompatibles avec une théorie de la pratique généralisée. Donc l'idée, c'était du coup d'insister au contraire, dans les quelques, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, les quelques éléments en fait, de développement un peu empirique sur la socialisation chez Bourdieu, ou sur la sociogenèse des habitus, vous allez avoir des choses, il va insister davantage sur les choses qui vont du corps au corps. Typiquement, par exemple, les paysans marchent dans la boue, donc truc matériel, pratique purement corporelle, ils développent un type d'excise particulier, une type de démarche particulier, qui est aussi un rapport au monde, etc. Mais vous voyez, c'est vraiment bon. Et que là-dedans, en fait, la question de la médiation du langage, en fait, enfin, la question du langage est relativement secondaire. Alors, Bernard Lahire, qui n'est pas là, mais qui, lui, a insisté plutôt sur le côté de dire, en fait, il y a la médiation du langage, en fait, dans l'incorporation. Mais nous, ce qu'on propose, c'est un peu différent, c'est de dire, mais le langage en tant que tel, on peut le regarder comme socialisateur, parce que c'est pas une fatalité de regarder le langage de manière intellectualiste, à pratique, etc. Pour autant, justement, qu'on est attentif à se donner un langage qui est pratique. Ça veut dire quoi ? Qui répond à des critères de la pratique, qui sont assez, finalement, pas si nombreux, qui vont être... Je ne sais pas, jamais. Bon, voilà. C'est répété, c'est répétitif, ça revient régulièrement. C'est dit pas forcément en conscience. On dit à un enfant quelque chose, en fait, mais on n'est pas tout le temps en train de se dire « je suis en train de lui dire ça ». Et troisième point, qui est très lié, en fait, au précédent, c'est plus fort que soi. On ne peut pas s'empêcher, en fait, de le dire. On ne peut pas s'empêcher d'intervenir. Voilà. Ces critères-là, qui sont les critères de la pratique, on peut les appliquer au langage. On peut rechercher le type de langage qui a ces propriétés-là, et à partir de là, de dire, ça peut très bien être considéré comme socialisateur, sans sortir d'une théorie de la pratique. Mais vous voyez, comme socialisateur en tant que tel. Donc voilà, enfin, je ne développe pas davantage, parce que en fait, c'est simplement pour vous donner un petit aperçu en fait, de l'idée de l'enjeu pour nous théorique là-dedans, c'est de dire, effectivement, d'essayer de rechercher, en fait, dans le cadre d'une théorie de la pratique maintenue, en gros, des moyens de voir le langage comme socialisateur, mais vous voyez, pas seulement comme accompagnateur de processus d'incorporation, comme socialisateur en tant que tel. Et là, ce qui peut être d'ailleurs une d'une aide au passage, c'est aussi de ne pas oublier que ces langages-là, ils ont d'abord une forme relative, matérielle aussi pour les enfants. Ça, c'est ce que dit Elias dans Théorie des symboles, mais qui est important. C'est-à-dire, c'est aussi des sons. C'est aussi des choses qu'ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Ils ont entendu, par exemple, des remarques régulièrement qu'on leur a fait. Je pense à des enfants qui nous ont dit une fois. Mon père, il dit qu'on fait partie des 1% les plus riches. Bon, même un CM qui vous dit ça, il ne sait pas exactement ce qu'il dit la plupart du temps. Sauf que cette phrase-là, cet idiome-là, il va pouvoir être réinvesti. C'est une espèce de forme matérielle qui est là, un son, une suite de sons, qui va pouvoir être réinvesti d'un sens particulier, qui va pouvoir prendre du sens petit à petit. Donc nous, on pense que ça, c'est important, et que justement, c'est aussi ce qui fait, d'un point de vue tout à fait méthodologique aussi, le moyen de faire le départ entre le langage exceptionnel, en fait, de l'anecdote édifiante racontée par les parents, ou comme on disait tout à l'heure, par exemple, de l'opinion politique déclarée par les parents à un moment T, le genre des élections typiquement, et la récurrence, en fait, de ces choses un peu sourdes, mais très fréquentes, qui n'ont pas vocation à être apportées sur la question de la politique, mais qui vont être mise en œuvre quand il va falloir juger Mélenchon en disant « mais quand même, ça ne se fait pas de couper la parole ». Et ça, c'est profond, parce que c'est hyper lié à la pratique langagière, au sens fort du terme. Voilà. On est un peu long, 50 minutes, je suis désolé. Merci.